Et la première, c'est sur l'expérience, sur ce que vous avez déjà vécu. Et en fait, quelle est l'expérience de rupture la plus forte que vous ayez connue dans le domaine muséographique, c'est-à-dire à la fois en tant que conceptrice ou concepteur, ou participant à des projets, mais aussi éventuellement et ou en tant que spectateur. Quel est le moment où vous avez eu vraiment l'impression que un moment de bascule, de bouleversement se passait dans votre expérience, et est-ce que vous pouvez nous en parler? Qui commence? Et alors oui, pardon, je vais avoir, pour nos amis qui sont en train de faire la documentation dans la salle d'à côté, une pratique un peu radiophonique qui va être de redire les noms de chaque personne au fur et à mesure que vous intervenez, de manière à ce qu'on puisse avoir un suivi des interventions dans la documentation. Qui aurait envie de commencer sur cette question de l'expérience de rupture la plus forte que vous avez? Donc vous pourriez nous parler. Jean-Pascal Baron.
Alors, moi, l'expérience de rupture la plus forte que j'ai pu vivre dans mon expérience professionnelle autour du musée et puis des dispositifs de médiation numérique ou non, elle est très récente. C'est celle que j'ai vécue là, en passant, je dirais, à la fois du monde du fournisseur, du prestataire de service, celui qui fabrique pour le compte d'eux, au monde du client, celui qui demande une production, une réalisation, en passant aussi du monde du privé, des entreprises privées, au monde des entreprises publiques, et dans une moindre mesure, je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça, mais en passant de Paris à la région. Je détaille un peu, en fait, j'ai passé la majeure partie de ma vie professionnelle dans un environnement assez homogène, où j'étais entouré de professionnels du multimédia, du design, des contenus, du développement informatique, etc. Et j'avais pas l'impression d'être plus malin qu'un autre, ni plus expérimenté, ni plus légitime dans une prise de parole, puisqu'on en était un peu tous au même niveau, et on avait affaire à des clients qui, à des niveaux différents, en étaient à peu près au même point que nous. Donc il y avait un certain nombre de questions qui se posaient pas, un certain nombre de mise au point, ne serait-ce qu'en termes de langage, en termes aussi d'appréhension et de compréhension des univers métiers, des enjeux, etc., qui n'avaient pas besoin de régler. Donc c'était finalement assez confortable, voire limite routinier. Et puis donc j'ai été embauché à Nîmes pour travailler sur un projet de musée qui est en conception. Et là, d'un seul coup, j'ai été complètement extrait de cet univers assez homogène, y compris culturellement et humainement, pour me retrouver dans un terrain où, je vais prendre un exemple, quand je suis arrivé, beaucoup de gens me disaient « Ah, mais vous savez, moi j'y comprends rien, l'informatique, j'y connais rien. » Et donc moi je répondais « Mais moi non plus. » C'était un peu de la provocation, mais je suis arrivé dans un environnement où déjà l'idée de multimédia, c'était une idée d'informatique. Il y a vraiment l'idée que, finalement, d'aborder ces problématiques-là, c'était d'abord des problématiques de technologie, d'équipement, des histoires d'ordinateurs, d'écrans, de réalité augmentée, parce qu'aujourd'hui, plus possible de faire un projet multimédia muséographique sans réalité augmentée, sinon c'est vraiment trop au XXe siècle, quoi. Donc déjà, on ajoute à ça le fait que, venant du multimédia, il a paru logique de m'intégrer à la direction des systèmes d'information. Donc la direction des systèmes d'information dans une collectivité territoriale, c'est les informaticiens purs et durs. Comme je dis souvent, c'est la première fois de ma vie que je me côtoie des gens au quotidien qui s'occupent des caméras de vidéosurveillance. Et donc, il a fallu, dans les premiers mois, déjà refaire toute une mise au point avec un certain nombre de personnes, y compris en interne, sur le fait que j'étais pas un ingénieur informatique, qu'on n'allait pas parler beaucoup informatique ensemble, qu'on allait parler surtout contenu, pourquoi faire, à l'attention de qui, et sous quelle forme, etc. Et puis après, la rupture, elle vient aussi de toute cette lourdeur à la fois politique et administrative qui est celle qui entoure le travail qui consiste à essayer de développer effectivement quelque chose d'un peu prospectif, d'un peu créatif, d'un peu en questionnement, d'amener aussi des façons d'aborder l'informatique, entre guillemets, mais aussi de dire que le multimédia dans un musée, c'est aussi de l'audiovisuel, et puis c'est aussi d'interactivité dans les réseaux, enfin, c'est tout un tas de choses qui débordent un petit peu le cadre de l'informatique. Donc il y a eu voilà, un long travail comme ça, un petit peu mis au point, qui n'est pas fini d'ailleurs, hein, qui est fini, je dirais, avec mes interlocuteurs du quotidien, mais qui reste à faire vis-à-vis de l'exécutif, des politiques, etc. Et donc la rupture, pour moi, elle s'est vraiment positionnée à ce moment-là.
Oui, c'est à la fois une rupture d'environnement. En même temps qu'une rupture des pratiques.
Oui, tout à fait.
Qui se ferait rebondir sur cette question de la rupture, des expériences de rupture que vous avez faites.
Le terme est fort en même temps.
Ouais.
Pour le poste qui concerne, il y a vraiment rupture.
Moi, ça remonte au contraire à presque le démarrage, ou en tout cas la concrétisation pour moi d'un intérêt fort concernant l'objet muséal. En fin de thèse, je fais un cursus en sociologie de l'art et de la culture, je me suis intéressée à l'exposition en tant que média, et on a lu de la théorie sur l'exposition, l'idée, enfin tout un tas de réflexion, d'analyse venant des sciences de l'information, de la communication, et en même temps, en tant que visiteur, je ne voyais pas énormément non plus de mise en pratique, de renouvellement, d'approche, et j'ai eu quand même une expérience de rupture en tant que visiteur, là, en découvrant les expositions du musée d'ethno de Neuchâtel, dirigé par Jacques Lévard. Donc moi, je me fais carrément un objet de recherche en tant que jeune chercheur. Parce que là, tout d'un coup, j'ai compris aussi ce que c'était que travailler l'idée d'un concept en dépassant l'objet de la collection tangible, mais de travailler la mise en exposition d'une idée, d'un concept qui était très poussé et en même temps très assumé, sans trop s'intéresser finalement à la question du public. Pour avoir échangé aussi avec le directeur à l'époque, il me disait on décide de travailler un objet comme le trou, pom-pom-pom, il explique sur le son de la musique, ou la différence sur laquelle moi j'ai travaillé. Enfin, un concept, une idée, une force, et puis voilà, tout un travail d'équipe très serré autour de ce commissariat, cette direction, et on va assez loin dans, je pense, l'expérimentation d'idées. Mais en tout cas, voilà, ça s'arrête là. Donc après, les questions qui nous animent aujourd'hui, de retour, de co-création, à cette époque, en tout cas, elles n'étaient pas existantes du tout. Mais pour moi, ça a été un moment, en tout cas en tant que public, de rupture assez forte.
Si vous prolongez un peu ce que vous disiez, une rupture que je pense avoir vécu il y a déjà aussi quelques années, c'est quand la National Gallery à Londres a ouvert son nouveau bâtiment, sa nouvelle aile, la Sainsbury Wing. Et à ce moment-là, l'équipe des conservateurs et le directeur a décidé de casser l'accrochage traditionnel pratiqué dans la plupart des musées à cette époque-là et qui se pratique encore, l'accrochage par école, peinture italienne, peinture espagnole, peinture française, etc. Et eux, de faire un accrochage chronologique, pour montrer à cette époque à quel point déjà on pouvait voir en Europe les liens entre les artistes, les voyages des artistes, les rapprochements, les différences, etc. Et on traversait donc un accrochage chronologique où on voyait peinture flamande, côtoyer peinture italienne, etc. Pour moi, ça constituait une véritable rupture en termes de contenu, qu'un musée se réinvente, se développe pas seulement en ouvrant un nouveau bâtiment avec de nouveaux équipements, etc., mais en repensant son contenu, en repensant donc son accrochage à un véritable travail intellectuel.
Et ça me fait penser, Emmanuel, effectivement, à ce qui s'est produit un peu plus tardivement au Louvre-Lens, en l'occurrence, avec la ligne de temps. Anne, peut-être tu peux nous en dire deux mots, parce que là, il y a une rupture en termes de scénographie, muséographie, mais pas du tout numérique, même si les aspects numériques, évidemment, sont importants aussi.
Et moi aussi, je me suis beaucoup posé de questions sur cette rupture. C'est vrai que c'était pas évident. En plus, c'était une rupture. Ouais. Moi, j'ai plutôt des ruptures, ou en tout cas des déplacements. Et donc, avant de répondre sur la rupture du temps, qui est une rupture en même temps, je vais être à peu près dans le... Enfin, je trouve que la rupture en termes de conception de métier, identification des compétences, etc. Je pense que c'est une thématique sur laquelle on reviendra parce que c'est aussi une question très importante sur ces problèmes de déplacement et de perception. Moi, une rupture importante, un peu dans le même ordre d'idée, ça a été, avec toutes les limites de la chose, l'accrochage de la tech moderne au début, c'est-à-dire un accrochage thématique qui a fait couler beaucoup d'encre, on ne va pas y revenir, mais néanmoins, pour moi, avec le Turbine Hall et avec le bâtiment et cette réhabilitation d'un lieu industriel, enfin bon, maintenant c'est devenu une banalité, mais à l'époque ça n'était pas tant que ça. Pour moi, ça a été vraiment un moment qui était presque une rupture souhaitée. Je ne dis pas que le résultat m'a totalement séduite, mais en tout cas, il y avait une envie de ces transformations de pratiques d'accrochage traditionnelles qui ont leur vertu par ailleurs, mais qui pouvaient aussi nécessiter qu'on envisage autrement les dialogues entre les périodes, entre les médiums, entre les styles, etc. etc. Enfin, qu'on change les codes et les axes par lesquels on abordait la création. Et évidemment, c'est resté une sorte de leitmotiv dans mon parcours de professionnel et visiteur. Et la galerie du temps est en soi une rupture très forte assumée par le Louvre qui a une histoire très forte sur ses collections et ses accrochages, des contraintes de bâtiment très puissantes dont il se débrouille, on va dire, pas si mal, mais cette volonté de remettre tout à plat, si l'on peut dire, dans un espace un peu radical qu'est cette galerie de 120 mètres de long par 25 mètres de large, avec un parcours sur 4500 ans d'histoire de l'art et un dialogue Orient-Occident. Bon, voilà, si on pourrait discuter sur l'accélération folle, enfin, c'est comme un accélérateur, non pas de particules, mais presque de neurones, parce que pour passer de cet art relativement premier, quasiment, jusqu'à le milieu du 19e siècle, avec le fait qu'on s'arrête au milieu du 19e siècle pour des raisons de répartition des collections entre le Louvre et Orsay, enfin bon, bref, avec effectivement ces mises en relation visuelle, là on a quelque chose de vraiment très fort. On verra sur vos relances et d'autres choses que je trouve moins réussies, mais néanmoins la galerie du temps en soi a joué ce rôle de rupture très récemment sur la muséographie, et ça fonctionne parce qu'il y avait aussi toute la littérature des projets scientifiques et culturels, parce qu'on est tous baignés dans des grandes intentions. Alors on lit des PSC, pour ceux qui n'ont pas eu de bonheur, où en fait on est dans une espèce de musée idéal fantastique qui se métamorphose sans cesse, qui est en réflexivité sur lui-même, en interrogation puissante, etc. Et puis après il y a le réel, les marchés publics, les budgets, les commanditaires, enfin bref, et puis peut-être une timidité intellectuelle qui revient dans ces moments-là. Ça,
on va en parler des marchés publics.
La timidité intellectuelle aussi, enfin peut-être des réactions aussi à cette espèce de trop-plein de transformation. Mais sur la galerie du temps, ça marche, c'est séduisant pour les initiés, mais c'est aussi, et ça fonctionne, et c'était ça le but, pour les gens qui n'avaient pas forcément les clés et les codes au départ. Et on se rend compte que la très grande subtilité des échos entre des motifs, des thèmes, des genres, sachant qu'on ne sait pas ce que sont les motifs, des thèmes, des genres, mais en tout cas, cette proximité entre, par exemple, la statuaire classique et un tableau de la Renaissance, simplement sur une position d'un corps, et parce qu'on a en perspective visuelle cette statuaire antique et un tableau du Carmejean, là, en l'occurrence, ça fonctionne. Et pour avoir beaucoup interviewé de manière sauvage nos visiteurs de la Galerie du Temps, ces proximités visuelles créent, on va dire, un petit dictionnaire des images personnelles qui fonctionne avec le visiteur, qui n'aurait absolument, ou pas du tout, ou pas conscience d'ailleurs, de sa culture artistique. Et ça, c'est fort, parce qu'effectivement, ça marche dans la Galerie du Temps. Donc on va dire que dans cette idée de renouveler ou de revisiter la manière de traverser ou de parcourir un univers artistique, franchement, je trouve que ça reste une rupture récente assez puissante.
Peut-être pour rebondir sur ce que Jean-Pascal a dit, c'est vrai que moi, en arrivant au Louvre, j'étais un peu dans cette situation-là aussi, d'avoir travaillé plutôt dans le domaine des médias, de la production, toute petite production, et d'être voilà, de fournir des amateurs, dans un domaine plus. Voilà, le monde des prestataires, je dirais, et puis d'arriver au Louvre, donc d'être du côté du commanditaire, ou cette expérience forte, par exemple, moi, celui d'avoir travaillé avec un conservateur qui s'appelle Jean Haber, sur l'alliage au lapin de Titien, et voilà, ces rendez-vous dans ce petit bureau un peu sombre et triste, et en même temps, voilà, avec une idée du contenu, une idée de... des connaissances très importantes à exprimer sur ce tableau, et qu'est-ce qu'on va dire, et comment on va le faire, ces échanges très intenses. Ça a été pour moi des expériences fortes. Alors, je sais pas si c'est des expériences de rupture, mais en tout cas des expériences fortes à titre personnel, ou encore un autre moment avec Sophie Macarou, qui était la responsable du département des arts de l'islam. Voilà, des échanges très tenus avec des responsables scientifiques, avec l'idée de les aider à exprimer, à diffuser une information. Et je pense que sur ce que vous avez dit, le côté il y a 10 ans, on était vraiment dans une information descendante, et qu'aujourd'hui tout ça c'est fini, on copartage, on co-diffuse, etc.
C'est
un peu plus, à mon avis, la réalité du terrain, elle est un petit peu plus... comment dire...
On est bien d'accord.
Et ce qui me frappe.
D'accord, c'est pardon, c'est une tendance, mais c'est loin d'être le cas général.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, on a ouvert les nouvelles salles des objets d'art du 18e vendredi, là, qui se sont ouvertes au public. Et ce qui m'a frappé la semaine dernière, déjà en voyant les premiers publics, c'est le désir de médiation. Enfin, il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup de collections, mais il y a vraiment une attente de comprendre, pour comprendre, et que cette idée que finalement aujourd'hui on ne va plus diffuser d'informations, on va juste co-créer ensemble, et ça va être très chouette. Donc, voilà, je pense que ça peut se discuter aussi, et qu'il y a une attente du public par rapport à une information aussi légitime, crédible, etc. Ça, c'est une remarque personnelle, pardon. Autre expérience de rupture, pour moi, c'était peut-être l'ouverture du musée du Quai Branly. Ayant participé en tant que prestataire, et tout d'un coup un musée qui intègre totalement l'audiovisuel, le multimédia, qui en fait complètement usage dans sa muséographie, pour moi c'était peut-être aussi une expérience de rupture.
Oui,
d'accord.
Oui, ben j'ai trouvé que la question était vraiment difficile parce que dans nos travaux, là, dans nos travaux de partenariat de Mécénat Orange, on ne cherche pas forcément la rupture, et je pense que l'objectif n'est pas forcément de faire quelque chose qui est en rupture.
D'accord.
Et là où j'ai vraiment vécu une rupture, mais c'était plus une rupture dans les pratiques du public. Et du coup, on avait mis en place un dispositif qui était en écho de ces pratiques en rupture, qui finalement a été dépassé par les pratiques des visiteurs eux-mêmes. C'était lors de Dynamo, donc cette exposition d'art cinétique l'année dernière au Grand Palais. Donc on avait conçu un dispositif avec la Réunion des musées nationaux pour permettre la prise de photos sur des œuvres sur lesquelles on avait les droits. Et toutes les photos des visiteurs étaient postées sur un mur d'images monumentales en fin d'exposition. Donc il y a eu énormément de contributions, de téléchargements de la fibre, 25 000. Mais finalement, en fait, le dispositif n'était pas en rupture, c'était les pratiques qui l'étaient. Et les visiteurs, il y a une grande partie des photos qui ont été prises sans passer par cette application, et directement sur les réseaux sociaux. Et finalement, notre dispositif a été dépassé par les pratiques elles-mêmes. Voilà. Donc pour moi, ça c'est une des ruptures que je vois. Et je pense qu'il faut être vigilant aussi, parce que on ne peut pas se limiter non plus sur cette contribution de photos. Là, c'était vraiment lié à cette exposition d'art cinétique qui s'y prêtait. Oui. Sur un art cinétique en fait, qui demande un engagement des visiteurs depuis ses débuts. Et je pense qu'il y a un danger à vouloir aussi calquer cette expérience-là à tout type d'exposition, et qu'à un moment donné, en fait, ça peut même être un frein à la découverte des œuvres. Je dis ça et pourtant, je me fermente à l'aide du mobile. Donc c'est à double tranchant. Mais là, vraiment, ce que j'ai observé lors de cette exposition, et le fait que ça ait dépassé en fait, le dispositif qu'on avait mis en place, c'est que pour moi, c'était une rupture vraiment de pratique. Et à titre personnel, Là, j'ai du mal, encore plus de mal à répondre. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur le guide de visite du Louvre-Lens.
Oui.
Donc, on a mis en place une nouvelle ergonomie avec une visualisation en 3D de la fameuse galerie du temps.
Oui.
Et finalement, je me suis dit, bah non, ça, c'est pas. Enfin, c'était pas en tant que visiteur, ça n'a pas été une rupture pour moi.
Mm-hmm.
Par contre, la rupture, bah, j'étais en train d'utiliser le guide pour visiter l'expo temporaire de la Renaissance. Et j'étais devant un autoportrait du Tintoret. Et en fait, la rupture, ça a été au niveau des contenus. Et du niveau, en fait, de qualité des contenus qui étaient présentés par le guide. Et une musique qui m'a vraiment émue. Et à ce moment-là, en fait, j'ai versé une larme devant le tableau. J'étais avec mon guide et j'ai pas du tout regardé l'interface 3D. Et voilà. Et pour moi, ça, c'était une, oui, c'était une rupture. Ouais. Et je pense que du coup, la musique est... C'est vraiment une rupture importante dans l'appréhension des œuvres.
Oui, c'est parce que c'est aussi une accroche, c'est vraiment d'affect personnel,
oui.
De relation,
de relation à l'œuvre.
Beaucoup plus intime avec,
oui,
l'œuvre.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire une hypothèse rapide à ce stade, quand on t'écoute là, en fait, il n'y a pas de rupture en termes de visiteurs, parce que la manière dont sont conçus en fait, les dispositifs. Effectivement, c'est essayer d'enrôler les spectateurs, de partir en fait, d'usages qui existent et de leur présenter un nouveau type de dispositif interactif, mais ce n'est pas une finalité en soi. Mais à travers cette continuité, s'opère peut-être un changement relationnel. Enfin, là, il y a peut-être une rupture dans la manière dont les visiteurs vont découvrir un lieu, ça peut être le château de Versailles que tu citais tout à l'heure, ou le Louvre-Lens. C'est-à-dire qu'en fait, la force de la rupture aujourd'hui, finalement, elle est quasiment sans basculement et sans couture pour le visiteur lui-même.
Mmh.
Alors qu'au bout du compte, si on a une vision peut-être un peu à distance, je ne dis pas que tu ne l'as pas, parce que tu l'as aussi, il y a quand même, entre les pratiques muséologiques il y a une dizaine d'années, les pratiques muséologiques aujourd'hui, quand même un rapport à l'œuvre qui est complètement différent. Et le numérique y a contribué pour partie, mais pas seulement, et qu'il y a donc une rupture d'ordre beaucoup plus général, en fait.
Oui,
et tout ça s'inscrit de manière encore plus puissante, puisque justement tous les opérateurs d'innovation ou opérateurs de musée font pour qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il y ait un enrôlement nouveau. Donc je pense que le terme de rupture, en fait, ça dépend de où on le situe. Enfin, de mon point de vue.
C'est-à-dire que, un tout petit commentaire avant, mais au fond, moi, mon sentiment, c'est que la rupture, elle n'est pas plus dans le musée que dans la société. C'est-à-dire que l'usage du numérique, il est vraiment. Partout, il y a vraiment un esprit de digitalisation de la vie dans la société.
Pardon.
Je ne sais pas si tu veux dire un truc très intelligent, mais en tout cas, je ne suis pas sûre que le musée soit spécifique à cette rupture-là. Et c'est vrai que l'importance des réseaux en particulier, et la diffusion d'images, la place de la photo aussi dans sa vie personnelle, fait que ça a un impact dans plein de domaines, je pense.
C'est ça, ce qui est donc dans une tendance générale, effectivement, de basculement ou de mutation.
Ouais.
Et peut-être que le musée est une caisse de résonance ou un accélérateur, pour reprendre le terme d'Anne aussi. Finalement, il y a une forme de condensation des usages. Et il y a des opérateurs qui travaillent ensemble et qui actuellement ne travaillent pas ensemble pour créer des usages nouveaux dans le domaine du numérique. Et que le musée peut devenir une sorte de laboratoire. Et donc participe quand même de manière assez forte à cette mutation générale. Mais c'est une hypothèse que je soumets aussi. Il y a une intervention juste là.
Oui, en fait, je voulais rebondir justement sur ce que vous venez de dire. Je prends en fait la rupture principale se joue sur la place du visiteur. Donc, comment est-ce qu'il est considéré? Et là, pour rajouter une expérience personnelle, j'ai travaillé au musée à la Kunsthalle à Hambourg depuis des années 90. Et une vraie expérience de rupture était de voir la transformation de la notion du visiteur. De quelqu'un qui doit être éduqué, qui vient au musée pour apprendre une culture et toute une histoire, etc., en client. En fait, ce qui s'est vraiment joué à l'espace de 5 ans, à peu près, et là-dedans, par ailleurs, c'était vachement coexistant avec l'arrivée du numérique au musée, et on commençait à faire les premières expérimentations pour voir on était très méfiants par rapport à ça. On pensait plutôt que ça soit de l'ordre du marketing, ça sera loin de... Bon, bref, et ce qui était frappant, c'est qu'à ce moment-là, le visiteur a été considéré complètement différemment. C'est-à-dire, on l'a plutôt regardé comme quelqu'un qu'il faudrait satisfaire, quelqu'un qu'il faudrait divertir, quelqu'un qui est un client aussi pour la boutique, qui devenait beaucoup plus grand, beaucoup plus proche à l'entrée. Enfin, y a plein de dispositifs qui se sont rajoutés. Et la deuxième rupture qui s'est ajoutée à ça, c'était le moment où je suis arrivé en France, c'était 2000, donc il y a 14 ans, et pour moi c'était une rupture, et là il faudrait aussi peut-être parler de ça, de culture de musée. C'est-à-dire, je crois que c'est différent en fait, c'est différent comment on considère la place du musée dans la culture allemande, dans la culture anglo-saxonne, dans la culture française. Et justement, à l'époque quand je suis arrivé et j'ai commencé à fréquenter les musées en France, j'ai très fort ressenti la présence de cette idée de transmission de connaissances, transmission de valeurs, de culture. Par ailleurs, j'ai aussi travaillé un peu dans la médiation qui est à l'état embryonal par rapport à ce qu'on peut trouver en France. En fait, en Allemagne, c'est... À l'époque, c'était rien du tout. Par contre, c'était plutôt... Il fallait se battre contre les conservateurs et il fallait vraiment maintenir une mission de... Je sais pas, de médiation. Et en arrivant en France, j'étais bouche bée à voir à quel niveau c'est développé. Par ailleurs, c'est de grands modèles. Bon, bref. Juste pour dire que, voilà, avec cette optique de transmission, vient également, bien sûr, une force au niveau de culture, de médiation, et donc d'intégration de numérique assez rapidement dans le musée, peut-être. Mais je crois, d'après aussi de tout ce qu'on a écouté, là, j'ai l'impression que, justement, la place des visiteurs, et là, ça reflète, bien sûr, aussi le changement de la société, en tant que client, donc en tant que quelqu'un qui paye, et qui a des attentes, qui amène des attentes, et une concurrence aussi entre les musées. Mmh. Moi, j'étais à la Kunsthalle, ça a été changé en fondation. Donc, c'est plus l'ordre public seulement. Donc, ça devient, ça oui. Amène d'autres
enjeux. Ça devient privé, donc du coup, c'est d'autres moyens aussi de considérer le
tout un processus qu'on voit maintenant arriver aussi en France.
Ce qui rejoint d'ailleurs un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la relation complexe, je trouve, entre le développement des dispositifs humains dans les musées et les industries culturelles. C'est-à-dire le fait que une grande partie des attentes des visiteurs est construite, conditionnée par les pratiques qui ne sont pas muséales, qui sont les pratiques des dispositifs numériques dans la vie quotidienne. Mais qui du coup marque, influence, de manière très très forte, justement ce que les gens entendent par partage, ce que les gens passent à rejoindre tout ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de l'expérience de l'application Orange en relation avec l'esprit d'amour, finalement, une pratique du visiteur comme ça qui avait un peu débordé ce que vous aviez initialement construit avec l'application, parce que simplement parce que ça fait partie de ce que les gens font tous les jours. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est spécifique au musée? Qu'est-ce qui peut s'expérimenter dans le musée qui est vraiment différent de ce qui s'expérimente en dehors du musée? On pourrait dire ça comme ça. Hein, ça quelle est la spécificité de ce qu'on expérimente au musée, qu'on n'expérimente pas dehors? Ou on peut le dire autrement, qu'est-ce qu'on peut proposer dans un musée qui ne se réduit pas à ce qui est proposé au dehors.
Je vois Xavier qui...
disons que pour moi, il y a une question qui est intéressante dans la rupture, c'est pourquoi est-ce que la rupture est rendue nécessaire en fait dans l'évolution des musées?
Est-ce qu'elle l'est?
Moi, j'ai un exemple qui est assez intéressant, qui est un projet sur lequel on a travaillé, on travaille encore d'ailleurs dessus, parce qu'on est plutôt sur des partenariats à long terme, qui est le musée itinéraire de la culture industrielle. Et donc c'est de la médiation sur un territoire qui fait 230 km de long sur 30 km de large, sur le bassin industriel Nord-Pas-de-Calais, Belgique. Et donc, quand on se confronte à un besoin de médiation sur un sujet comme la culture industrielle, la première question, c'est dans quel espace on va faire la médiation. Donc, sur ce projet-là, il y a 6 institutions muséographiques. Certaines ont fait des expositions relativement classiques, qui portent un discours mémoriel, ou technique, ou scientifique, etc. Et puis, Orb a travaillé sur la médiation sur site. Alors, est-ce qu'on est dans le musée? Est-ce qu'on n'est pas dans le musée? On est hors les murs, on est sur le territoire. Il se trouve que, donc, avant de travailler concrètement sur l'application qui propose de la médiation située, donc in situ, se confronter à un territoire comme ça, c'est une très très grande émotion, en fait, parce qu'on ne comprend rien. Le territoire a été complètement transformé par l'activité industrielle, et si on n'a pas de clé, c'est le chaos. Et donc, il y a une sorte de nécessité à apporter de la médiation in situ, et c'est pas du tout la même chose de proposer une maquette, par exemple, dans un musée qui montre comment était le puits de mine, à quelle profondeur il descendait, comment c'était en surface, etc. Et d'expliquer que telle installation, ben, il manque tel élément, il y avait des gens qui étaient sous terre, donc, etc. Et de montrer tout ça, de reconstituer par exemple des paysages sonores, etc. Le fait de se confronter directement à l'objet en fait, de la connaissance et d'y apporter de la médiation, c'est une démarche qui est différente que de concentrer la médiation dans un lieu dédié qui est le musée. Donc nous, on a travaillé là-dessus, on s'est confronté à ça. Mais c'est vrai que, en termes de pédagogie et d'émotion, je dirais que sur certains aspects, pas pour tout, mais en tout cas pour comprendre donc, un territoire comme ça, c'est beaucoup plus concret et efficace in situ que dans les murs, en fait. Voilà, donc ça, c'est une expérience de rupture qui est relativement forte par rapport à ça.
Qui rejoint aussi la deuxième question. La spécificité du dispositif muséographique vis-à-vis des dispositifs du dehors, entre guillemets.
Mais on a eu. Alors c'était incroyable parce que je vous donne juste un exemple très précis là-dessus. Donc on a travaillé avec le PAS qui est sur un ancien carreau de mine, et donc qui est une mine qui a été réactivée au début des années 70, qui a été exploitée pendant 5 ans, et dont l'origine remonte à la fin du. Même mi-18e siècle, donc il y a une durée d'exploitation très très longue. Et donc on a modélisé des puits de mine et l'exploitation, les puits ils descendaient à 1900 mètres. Donc on a fait une réalité augmentée pour montrer les puits de mine qui descendaient à 1900 mètres. Et les responsables du musée nous ont dit « Ah ben non, c'est trop, c'est pas possible, ça descendait pas aussi profond. » C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'avaient pas du tout conscience, en fait.
Que ça descendait à 1900 mètres.
Oui, de ce que c'était 1900 mètres, en fait. D'accord. Qu'est-ce que c'était concrètement, ouais. Physiquement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Donc les témoignages disaient « Les machines, on les entendait à 2 km. » Mais qu'est-ce que c'est une machine qu'on entend à 2 km? Donc le dire comme ça, c'est un concept. Mais simuler le fait qu'une machine est entendue à 2 km... et marcher pendant 1 km et entendre la machine qui est à 2 km et qui change de son, etc., c'est pas la même chose. Donc, effectivement, le numérique est quelque chose d'ambiant, tout le monde le pratique, etc. Mais il y a 10 000 manières de pratiquer le numérique. Et notamment, la pratique commune, c'est que tout soit accessible partout. Une pratique, c'est aussi amener la médiation précisément là où elle fait sens. Voilà.
Bah moi c'est pareil, j'avais du mal à penser à la rupture. Alors, du coup je vais vous montrer une photo que j'ai faite ce matin en marchant chez moi à la gare. Je laisse ça, je sais pas si on voit bien. Là c'est une petite bibliothèque de rue, bibliorue.
Voilà. Donc on voit un meuble bibliothèque, c'est ça?
Ouais. C'est marqué bibliorue, 26, servez-vous. Voilà.
Et
j'avais pas vu avant, donc je sais pas si on peut profiter du long week-end pour installer ça. Mais moi, ça c'est des micro-ruptures importantes. C'est sur le chemin de mon travail où il y a une bibliothèque. Donc je pense que ça pose beaucoup de questions sur comment on s'articule avec ça, qu'est-ce qui est différent pour Angoulême, qu'est-ce qui est pareil, et comment on intègre finalement cette sorte de bibliothèque qui n'est pas une bibliothèque municipale, mais qui est. Quelque part, là aussi.
Oui, c'est un espace de don, en fait. Pas d'échange, de don.
Une bibliothèque de pair à pair.
De pair à pair.
Pour moi, ça, c'est la rupture qui se fait un peu tous les jours.
Ah, il faudrait savoir si c'est une action municipale.
Non, ils n'auraient pas, écrit à la main.
Ouais. Ah,
ça existe déjà. J'ai pris ça à la photo ce matin en venant. Bon, je rebondis par rapport à la discussion, je n'ai pas forcément grand-chose d'autre à dire. Mais je trouve que finalement, voilà, c'est des ruptures qu'on voit petit à petit. Et comment la bibliothèque, les agents de la bibliothèque jouent avec ça, ou pas, parce que c'est pas simple. J'ai une collègue au Muséum de Toulouse, à la bibliothèque de Toulouse, qui avait essayé de faire du book crossing. Donc l'idée, c'est de déposer des livres dans les espaces publics. Eh bien, là, ça rejoint ce que tu disais, Jean-Pascal, pour récupérer quelques bouquins qui étaient voués dans ce qu'on appelle le désherbage, donc ils ne vont plus être mis à disposition. Et là, c'était toute une affaire. Il n'y a pas cette... Alors qu'ici, il y a une fraîcheur, il y a une spontanéité. Voilà. Et donc c'est ces questions-là, moi, je trouve, qui m'intéressent, en tout cas, par rapport à cette rupture-là.